Sous la Voie lactée, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître. La Voie lactée, c'est plein de toutes petites étoiles, parce qu'en fait, elles sont toutes petites, ces étoiles. Mais elles sont des milliards, et c'est ça qui fait cette lumière, ce halo. La Voie lactée, ça peut être tous les êtres humains, et ça peut aussi être toutes ces pensées. Voilà, et c'est ça qui nous éclaire la nuit, quand on se promène, soit dans une ville, soit dans une forêt. C'est parti, on lève l'ancre et on embarque ensemble pour une nuit en mer sous la Voie lactée sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître. Pendant une heure, nous allons naviguer d'un texte à l'autre, rencontrer de nouveaux équipages, plonger entre deux eaux et accoster d'autres rivages que les nôtres. On avance tous dans l'univers sur le même navire, sur cette planète bleue, porteuse d'eau et de vie. Pourtant, le voyage n'est pas le même, que l'on soit riche ou misérable. On sait même que tout le monde n'arrivera pas à atteindre la terre ferme. Longtemps avant l'invention des machines à vapeur, à l'époque de la navigation à voile, les naufrages étaient fréquents. On en trouve de nombreux témoignages et les épaves échouées au fond des océans sont là pour en attester. Dans l'Antiquité, les vents et les courants marins étaient déterminants pour voyager ou acheminer des marchandises. On les évoque dès les premiers grands textes grecs, il y a près de 3000 ans. Dans l'Odyssée, les dieux de l'Olympe, non sans cruauté, lance Ulysse, comme un pion sur l'échiquier dangereux de la mer. Quand Éole le reçoit, il lui offre une outre contenant tous les vents contraires qui pourraient l'empêcher de rentrer chez lui à Ithaque, une île située dans la mer Ionienne, du côté de l'actuelle Italie. Après 10 jours de navigation, voyant les contours de son île se dessiner enfin devant lui, Ulysse s'endort d'épuisement. Ses compagnons de bord, curieux, profitent du sommeil d'Ulysse pour ouvrir l'outre, pensant qu'elle contenait un trésor. Aussitôt, les vents s'en échappent pour former de violentes tempêtes qui, pour de nombreuses années, les éloignent de leur île. Aujourd'hui, on prévoit les éléments avec bien plus de précision. Les matériaux et les technologies ont largement évolué et on craint moins de sombrer lors d'une fortune de mer. Pourtant, dans cette mer Méditerranée, des hommes et des femmes risquent toujours leur vie dans l'espoir de trouver un refuge en Europe, fuyant la misère, l'oppression, les violences, la guerre. En octobre 2013, près de Lampedusa, un chalutier surchargé part de Libye. Il porte environ 500 passagers entassés, la plupart originaires d'Afrique de l'Est, du Soudan et d'Érythrée. Quand il fait naufrage, 366 passagers trouvent la mort, engloutis par les flots. L'Europe est sous le choc et l'Italie décide de mettre en place l'opération Mare Nostrum, comme disaient les Romains pour parler de la Méditerranée. C'est une opération humanitaire car elle vise à sauver les naufragés. Mais c'est aussi une opération militaire, car elle est censée protéger les frontières et dissuader les passeurs. Très critiquée parce qu'on l'accuse de faciliter le commerce des passeurs, elle est remplacée en 2014 par l'opération Triton de Frontex, chargée de surveiller les frontières de l'Europe et non plus de porter assistance aux passagers de ces embarcations. Conclusion : l'Europe a beau mettre en place des opérations de plus en plus sécuritaires, elle n'a jamais réussi à mettre fin ni au commerce sordide des traversées, ni au naufrage mortel. Comment empêcher ces tragédies, comme celle de juin dernier, qui aurait coûté la vie à 600 personnes, enfants, femmes et hommes, selon l'ONG SOS Méditerranée. En théorie, le deuxième protocole additionnel de la Convention de Palerme permet de s'attaquer au trafic de migrants. C'est un accord trouvé par les Nations Unies, soit 193 États membres. Mais dans les faits, que se passe-t-il? Nous, Européens, entassons les rescapés dans des camps sordides. Nous les perdons dans les méandres d'une administration écrasante. nous détruisons leur abri de fortune. Nous gazons ceux qui veulent s'échapper. Nous manquons à toutes les règles de l'hospitalité et nous violons les droits humains lorsque nos gardes-côtes pour protéger les frontières renvoient en mer ceux qui parviennent à toucher les rives de l'Europe. Au milieu de ce désastre, saluons le courage et le travail des ONG. Cette semaine encore, les canaux de sauvetage de SOS Méditerranée ont essuyé des tirs venant des gardes-côtes libyens pendant une opération en mer. Et saluons également les simples citoyennes et citoyens, les avocats, les traducteurs, les professeurs improvisés, les personnels soignants, les journalistes, qui avec leurs moyens luttent contre ces drames. Si vous parlez italien, vous pourrez écouter Sergio Scandura sur Radio Radicale. Ce journaliste qui a également enquêté sur la mafia documente aujourd'hui l'histoire des passagers arrivés clandestinement en Méditerranée centrale. Il participe ainsi à briser le silence et dénonce le rôle des autorités grecques et italiennes. Mais il est trop facile de se cacher derrière l'Italie ou la Grèce, qui par leur géographie sont en première ligne. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à Calais, qui a été le plus grand bidonville d'Europe, pour comprendre à quel point le gouvernement français est mal placé pour donner des leçons en matière de politique migratoire. D'ailleurs, quand on parle de critères, d'immigration choisie, de quoi parle-t-on ? Comment choisir ? Entre un fils et une fille ? Entre un adulte et un enfant ? Entre une femme et un homme ? Et quand on constate ce qui se fait à l'échelle planétaire, le pillage des matières premières, l'exploitation des travailleurs, hommes, femmes et enfants, par des multinationales, le trafic des armes, les guerres, on se dit que le danger ne vient pas des plus démunis, des demandeurs d'asile, mais bien des plus puissants, qui édictent des logiques politiques et économiques implacables. Pire, qui engendrent des conflits et des guerres. Si nous voulons avoir une action, c'est sur les causes qu'il faut agir. Ce sont nos propres choix qui sont à craindre et les relations funestes de compétition que nous avons imposées. La chaîne du vivant et la chaîne de l'humanité, ancrées dans la nuit des temps, peuvent se rompre à chaque instant. Préservons-les en luttant contre la pauvreté, la cupidité, la rancune et la jalousie. C'est ce que nous rappelle Clinton Fearon dans sa chanson « The Human Chain ».
With the human chain. Oh, no, 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 no. can really glad. Now is the time to be flat. What's going down? What's going down? Oh, no more can we neglect. Now is the time to reflect on what's gone wrong. What's gone wrong with the human chain? Fraud and jealousy, greed and poverty. We can be changed. We can be changed.
On est ensemble sous la Voie lactée sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître. On vient d'écouter la chanson The Human Chain, une chaîne sonore tissée avec les rythmes syncopés du reggae et la voix de Clinton Fearon. On va maintenant s'éloigner de la Méditerranée et de Frontex pour partir à la rencontre de femmes remarquables. En un coup de rame, nous allons parcourir 10 000 km pour arriver sur l'île volcanique de Jeju, au sud de la Corée. Depuis le XVIIe siècle, des plongeuses appelées Aenyo vivent au rythme de la lune et des marées. Elles pratiquent une pêche sous-marine en apnée pour subvenir aux besoins de leur famille. Pendant ce temps, les hommes restent au foyer. Ils élèvent les enfants et les nourrissons, préparent les repas pour toute la famille, s'occupent des tâches ménagères. Oui, oui, ne vous pincez pas, vous avez bien entendu. Les capacités physiques de ces femmes sont tout à fait extraordinaires. Elles sont le fruit d'une longue initiation qui n'est pas sans risque, et qui se transmet de génération en génération. On va écouter un premier extrait du roman de Lisa Si, intitulé « L'île des femmes de la mer », qui se situe sur l'île de Jeju en avril 1938. Depuis presque 30 ans, le Japon a annexé la Corée, qui n'est pas encore divisée comme elle l'est aujourd'hui. Ce jour-là, deux jeunes filles, Young-sok et son amie Mi-ja, vont réaliser leur premier plongeon avec le groupe des Aenyo. Une fois nos combinaisons enfilées, nous mîmes des vestes d'eau. Elles servaient seulement quand il faisait froid, mais je ne voyais pas à quoi, car elles étaient du même coton que le reste de la tenue. Enfin, nous nouâmes un foulard blanc sur notre tête pour conserver la chaleur de nos corps et pour éviter qu'une mèche de cheveux ne se coince dans les algues ou sur un rocher. « Tenez, » dit Yuri, en nous glissant un paquet en papier rempli d'une poudre blanche dans la main. « Mangez ça !» Cela vous aidera à éviter le mal des profondeurs, étourdissement, maux de tête et autres douleurs. Un sifflement dans les oreilles. Yuri fit la grimace à une idée. Je suis encore une plongeuse novice, mais je l'ai déjà. Elle imita le son aigu qui sifflait apparemment dans sa tête. Suivant l'exemple de Yuri et des sœurs Kang, Mi-ja et moi dépliâmes les paquets en papier, penchâmes la tête en arrière comme des bébés oiseaux, versâmes la poudre blanche amère dans notre bouche et avalâmes. Puis, Mi-ja et moi regardâmes les autres cracher sur leurs couteaux pour se porter chance et ramasser un ormeau. Une pêche prisée, car il se vendait à bon prix. Mère vérifia que j'avais tout mon matériel. Elle accorda une attention particulière à mon tewak. Une gourde évidée, laissée sécher au soleil, qui me servirait de bouée. Puis elle fit de même avec Mi-ja. Nous avions chacune un bichang pour déloger les créatures de leur abri et une binette à dents pour fouiller dans les fissures et pour nous déplacer en la plantant dans le sable ou les rochers. Nous avions aussi une faucille pour couper les algues, un couteau pour ouvrir les oursins et une lance pour nous protéger. Mi-ja et moi nous étions entraînés à utiliser ces outils en jouant dans les hauts fonds, mais Mère prit soin de nous avertir. Ne vous en servez pas aujourd'hui, habituez-vous seulement à l'eau autour de vous. Soyez toujours attentive à votre environnement, car tout semblera différent. Nous quittâmes le bultok ensemble. Nous reviendrons quelques heures plus tard pour ranger et réparer nos équipements, estimer la récolte de la journée, partager les bénéfices et surtout pour nous réchauffer. Nous cuirions et partagerions aussi une petite partie de ce que nous aurions rapporté dans nos filets si la récolte était abondante. J'attendais tout cela avec impatience. Tandis que les autres femmes montaient à bord du bateau, Midja et moi nous attardions sur la jetée. Elle fouilla dans son panier et en sortit un livre. Et je tirai un morceau de charbon du mien. Elle arracha une page et la posa devant le caractère portant le nom du bateau. Même amarré, celui-ci oscillait avec les vagues, ce qui rendait presque impossible à Midja de tenir la feuille et à moi de la frotter avec le charbon. Quand j'eus terminé, nous examinâmes le résultat. L'image tremblotante d'un caractère illisible pour nous, mais dont nous savions qu'il signifiait « aurore ». Depuis des années, nous commémorions de cette manière nos moments et nos endroits préférés. Ce n'était pas notre meilleur décalque, mais grâce à lui, nous nous rappellerions de ce jour à jamais. « Dépêchez-vous, nous lança ma mère, tolérante jusqu'à un certain point. » Midja glissa la feuille dans son livre pour la protéger, puis nous nous précipitâmes à bord et prîmes les rames. Tandis que nous nous éloignions lentement de la jetée, ma mère nous dirigea en chantant. « Plongeons !» Sa voix rocailleuse fendait le vent jusqu'à mes oreilles. « Plongeons ! Chantions-nous à notre tour !» La mélodie rythmée par nos coups de rame. « Coquillages d'or et ormeaux d'argent » chantait-elle. « Attrapons-les tous, » répondions-nous, « pour les offrir à mon amoureux, quand il rentrera au foyer. » Je ne pus m'empêcher de rougir. Ma mère n'avait pas d'amoureux, mais cette chanson était très appréciée et toutes les femmes l'aimaient. La marée était haute et la mer relativement calme. Pourtant, malgré le chant et les mouvements des rames, je commençais à me sentir mal et les joues habituellement roses de Midja tournaient au gris cendre. Arrivés au site de plongée, nous levâmes les rames. Le bateau montait et descendait dans la houle légère. J'attachai mon bichang à mon poignet, pris mon filet et mon tiwak. Un léger vent soufflait et je me mis à frissonner. Je me sentais assez mal. Pour 1000 ans, pour 10 000 ans, je prie le dieu dragon de la mer, lança mère face aux vagues. Je t'en prie, esprit roi de l'océan, pas de vent fort, je t'en prie, pas de courant fort. Le rituel accompli, nous frottâmes l'intérieur de nos masques avec l'armoise que nous avions cueillie pour ne pas qu'il s'embue, puis nous les plaçâmes sur nos yeux. Mère comptait, tandis que les femmes sautaient à l'eau et s'éloignaient en nageant par 2 ou 3. Avec moins de femmes à bord pour lester le bateau, il oscillait encore plus. Yori se stabilisa avant de sauter par-dessus une vague et atterrir dans l'eau. Les sœurs Kang se tinrent la main pour sauter. Elles étaient inséparables. J'espérais que leur loyauté s'étendrait à Midja et qu'elle veillerait sur elle comme elle veillait l'une sur l'autre. Mère nous donna un dernier conseil. On dit que la mer est comme une mer. L'eau salée, le pouls et les accélérations du courant, le battement de ton cœur amplifié, les sons étouffés par l'eau rappellent le ventre maternel. Mais nous, les plongeuses, devons toujours penser à gagner de l'argent. Nous devons toujours penser à gagner de l'argent et à survivre. Vous comprenez ? Nous acquiesçâmes et elle poursuivit. C'est votre premier jour, ne soyez pas avide. Si vous voyez un poulpe, ignorez-le. Vous devez apprendre à assommer un poulpe sous l'eau, sinon il peut utiliser ses tentacules contre vous. Ne vous approchez pas non plus des ormeaux. Elle n'avait pas besoin d'expliquer davantage. Il peut s'écouler des mois avant qu'une plongeuse débutante soit prête à risquer de déloger un ormeau sous un rocher. Seule, cette créature détache sa coquille du rocher pour que les eaux nourricières de la mer coulent autour et à l'intérieur. Quand elle est surprise, ne serait-ce que par le changement du courant, provoqué par le passage d'un gros poisson, elle s'agrippe à un rocher afin que sa coquille dure protège l'animal à l'intérieur de tous les prédateurs. Ainsi, il faut s'approcher prudemment d'un ormeau, insérer la pointe du bichang sous sa coquille et la soulever du rocher avec un mouvement vif, avant que l'ormeau puisse se refermer sur l'outil attaché au poignet de la plongeuse, la fixant au rocher. Seules des années d'expérience peuvent apprendre à une femme à se libérer assez rapidement pour remonter respirer à la surface. Je n'avais aucune hâte de tenter un geste si risqué. Aujourd'hui, vous suivez mes pas comme j'ai un jour suivi les pas de ma mère, et comme vos filles suivront un jour les vôtres pour suivre ma mère. Vous êtes des plongeuses novices, n'allez pas au-delà de vos capacités. Sur cette bénédiction et cet avertissement, Midja me prit la main et nous sautâmes ensemble dans l'eau, les pieds en premier. Aussitôt, le choc du froid. Je m'agrippai à ma bouée, les jambes battant sous moi. Midjam et moi nous regardâmes dans les yeux. Il était temps d'avaler notre souffle d'eau. Ensemble, nous prîmes un souffle. Un souffle. Un souffle, emplissant entièrement nos poumons, élargissant notre poitrine. Puis nous descendîmes. Près de la surface, la lumière filtrait, turquoise et brillante. Autour de nous, les autres descendaient dans le canyon qu'avait décrit Mère, la tête pointée vers le fond, les pieds tendus vers le ciel. Ces femmes étaient rapides et puissantes. Elles avançaient d'une longueur de corps, une autre longueur de corps, toujours plus profond dans l'eau, d'un bleu toujours plus sombre. Mija et moi peignions à prendre une posture si droite. Le pire pour moi, c'était le masque. Même à cette faible profondeur, sous l'effet de la pression, le bord en métal m'entaillait la peau. Il limitait aussi ma vision périphérique, créant un danger supplémentaire et m'obligeant à redoubler de vigilance dans cet environnement spectral. En tant que plongeuse novice, Yuri, les Kang, Mija et moi pouvions seulement descendre de deux longueurs de corps, mais j'observais ma mère disparaître dans l'abîme noir du canyon. J'avais toujours entendu dire qu'elle pouvait atteindre 20 mètres, parfois plus, en un seul souffle. Mais mes poumons me brûlaient déjà et mon cœur battait dans mes oreilles. Je donnais un coup de pied pour remonter. J'avais l'impression que mes poumons allaient exploser. Dès que je perçais la surface, mon sombisori éclata et se répandit dans l'air. On aurait dit un profond soupir. Et je m'aperçus que c'était exactement comme Mère me l'avait toujours décrit. Mon sombisori était unique, de même que celui de Mija, que je découvris quand elle fendit l'eau à côté de moi.
Oui !
Nous nous sourîmes, avalâmes à nouveau notre souffle d'eau et replongeâmes. La nature nous disait quoi faire. Quand je remontais à nouveau à la surface, j'avais un oursin à la main. Ma première prise, je le plaçais dans le filet accroché de mon tiwak, pris une autre série de profondes inspirations et redescendis. Je restais dans le champ visuel de Yuri, même si nous faisions surface à différents intervalles. Dès que je cherchais Mija, je la trouvais à moins d'un mètre de l'une des sœurs Kang, qui restaient elles-mêmes proches l'une de l'autre. Nous répétâmes ce cycle, nous arrêtant parfois pour nous reposer sur notre bouée, jusqu'à ce qu'il soit l'heure de retourner sur le bateau. Quand je l'atteignis, je n'eus aucun mal à hisser mon filet nettement plus léger que celui des autres et l'emportai à l'autre bout du pont pour que la femme derrière moi puisse monter avec ses prises. Mère supervisait l'opération. Un groupe de femmes attachait leur filet, fermant l'ouverture pour que rien de précieux ne puisse s'échapper, tandis que Dosang et d'autres se rassemblaient autour du brasero pour se réchauffer les os et boire du thé, se vantant de ce qu'elles avaient attrapé. Quatre traînardes étaient encore en train de nager vers le bateau. Mère comptait pour s'assurer que tout le monde était sain et sauf. On vogue ensemble sous la Voie lactée sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître. Le passage que l'on vient d'entendre est issu du roman « L'île des femmes de la mer » de Lisa Si. Et on reprend maintenant notre souffle en musique avec « Ailleurs », une chanson de Gérard Manset.
Personne ne pleure.
monde est meilleur et rien ne fait peur. Et rien ne fait peur. Ailleurs on croit le monde est meilleur.
Ailleurs, mais toujours sous la Voie lactée sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître. Et on vient d'écouter une chanson de Gérard Manset qui, en douceur, décape la carène de notre bateau du mirage de l'exotisme. Revenons en mer de Chine pour suivre le destin des plongeuses de l'île de Jeju. Nous faisons un saut dans le temps. En 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale a chassé l'envahisseur japonais. Mais elle a aussi divisé la Corée entre une partie nord sous l'influence communiste de la Chine et une partie sud sous l'influence des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis choisissent de soutenir des nationalistes coréens d'extrême droite et d'anciens collaborateurs ayant pactisé avec les Japonais pendant l'occupation. Ils interdisent aussi toute contestation dans le pays et accusent les opposants d'être des communistes. De nombreux habitants de l'île refusent cette nouvelle occupation et le gouvernement coréen qu'on leur impose. Ils dénoncent également les lourdes taxations qui pèsent sur les paysans, les méthodes violentes et le passé trouble de la police coréenne. Le 3 avril 1948 commence le soulèvement de Jeju. Lors d'une manifestation, la police tire sur des opposants. Les insulaires se révoltent et s'attaquent au poste de police. La répression ne se fait pas attendre. Pendant plus d'un an, elle va plonger l'île dans un bain de sang. Les crimes et les tortures contre ses habitants dureront jusqu'en 1954. On estime qu'il y a eu entre 30 000 et 60 000 morts sur les 300 000 personnes que comptait l'île. Pendant 40 ans, on a interdit aux habitants de parler de ce soulèvement. La thèse officielle, soutenue notamment par les États-Unis, affirmait que les massacres étaient commis par des communistes. En réalité, ils font partie des exécutions de masse des communistes, ou considérés comme tels, par la police et par l'armée sud-coréenne. Retrouvons Yuk-sok, notre plongeuse qui se souvient du moment où l'île se trouva prise dans un anneau de feu. Le 15 août, la République de Corée fut formellement proclamée dans le Sud. Un mois plus tard, avec l'aide de l'URSS, Kim Il-sung fonda la République démocratique du peuple de Corée dans le Nord. Bien que ni l'armée américaine ni l'armée soviétique ne soient complètement parties, la division de notre pays était apparemment réglée. La vie s'y était calmée, et je pourrais revoir Mi-ja. Mais pendant tout le début de l'automne, les différentes factions continuèrent de s'affronter à Jeju. L'armée était équipée de mitrailleuses et d'autres armes modernes fournies par les États-Unis, tandis que les rebelles se protégeaient avec des sabres japonais, une poignée de fusils et des lances en bambou. Puis, le 17 novembre 1948, le président Ri plaça Jeju sous loi martiale et promulgua ce premier décret. Quiconque sera trouvé à plus de 5 km de la côte sera abattu sans sommation. Cette zone fut appelée l'anneau de feu. Quiconque enfreindrait cette règle subirait la politique de la terre brûlée. « Où iront tous les habitants de la montagne ?» demanda l'une des femmes. « On les envoie sur la côte, nous apprit Ji-wong. »« Mais il n'y a nulle part où les mettre, » objecta une plongeuse. « Précisément, personne ne peut se cacher au bord de la mer. » Je posais la question à laquelle nous pensions toutes. « Est-ce que nous sommes en danger ?» Ji-wong haussa les épaules. « Nous vivons déjà du bon côté du cercle de feu. » Le lendemain, la pluie tomba comme si le ciel pleurait. Les hommes de la gendarmerie coréenne, la police de Jeju et les militaires américains amenèrent les premières centaines de réfugiés des montagnes aux abords de Bukchong. Les femmes et les enfants ne m'avaient pas l'air de fauteurs de troubles. À part les petits garçons et quelques anciens qui marchaient la tête basse, je vis peu d'hommes dans cette colonne d'angoisse. J'en tirai une seule conclusion. La plupart des hommes étaient déjà morts. Les enfants ne parlaient ni ne chantaient pour alléger le fardeau de leur situation. Les familles portaient ce qu'elles avaient pu sauver de leur maison, couvertures, nattes, ustensiles de cuisine, sacs de grains, jarres de terre remplies de légumes en saumure, patates douces séchées. Mais elles avaient dû abandonner leur bétail. Ils campèrent du mieux qu'ils purent, bâtissant des cabanes en roseaux et en branches de pin. À Bukchong, on nous ordonna d'utiliser les pierres de nos champs pour bâtir un mur autour du village. Les hommes, peu habitués aux travaux de force, souffrirent. Jumbu rentra à la maison avec des ampoules aux mains et mal au dos. Cette tâche empêchait aussi les femmes de travailler dans leurs champs terrestres et sous-marins. Même les enfants devaient les aider. Quand le mur fut terminé, nous fûmes obligés de monter la garde jour et nuit, armés de lances faites à la main. « Si vous laissez entrer quelqu'un qui se trouve être un rebelle, vous serez tous punis. nous avertit un policier. Les réfugiés épuisèrent bientôt la nourriture qu'ils avaient apportée. La nuit, des gémissements de faim flottaient par-delà les champs éclairés par la lune, à travers les murs de pierre, jusqu'à ma maison. À chaque fois que le vent tournait, la mauvaise odeur des corps mal lavés et d'absence de sanitaire nous agressait les narines, les yeux, la gorge. Un jour, lorsque je passais à proximité du camp, une femme attira mon attention. « Je suis une mère. Vous avez l'air d'être une mère. Pouvez-vous m'aider ?» Bien que les gens des montagnes aient toujours méprisé les plongeuses, notre sentiment s'était mué en pitié en voyant ce qui leur était arrivé. Je lui demandai donc ce que je pouvais faire. « Je ne suis pas plongeuse, dit la femme. Je ne sais pas récolter dans la mer. Pouvez-vous m'apprendre ?» J'étais prête à accepter, mais quand j'appris qu'elle ne savait même pas nager, je dus refuser. Quand elle se mit à pleurer, je chuchotai. « Venez à mon champ ce soir, je vous laisserai un panier de patates douces et d'autres choses. » Quand je lui donnai les indications, elle pleura encore plus fort. Bientôt, j'appris que d'autres femmes de Buchong laissaient de la nourriture dans leur champ ou près du mur du camp. Mais après que l'une de mes voisines fut surprise à faire cela, emmenée, torturée et tuée pour sa charité, je ne pris plus ce risque. Ensemble sous la Voie lactée sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Et on vient d'écouter un passage de L'île des femmes de la mer de Lisa Si. Il commence à se faire tard, on titube un peu de sommeil. Mais est-on assez ivre pour suivre Rimbaud, le plus punk des poètes, qui a éventré le vaisseau de la versification et de la métrique pour libérer la poésie de son esthétique et de son carcan classique. Ultra sensible, c'est une expérience poétique qui nous submerge avec une accumulation d'images saturées telles qu'il ne faut pas chercher à les comprendre. Dans le bleu du ciel et de la mer, versons un verre d'absinthe. Le bateau ivre, Arthur Rimbaud. Comme je descendais les fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges, criards, les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand, avec mes haleurs, on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots, qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, 10 nuits, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescent, dévorant les azurs verts, où flottaison blême et ravie, un noyer pensif, parfois décent, où teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous le rutilement du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil, bas, taché d'horreurs mystiques, illuminant de longs figements violets. pareils à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses ou pourries dans ses joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns où les serpents géants dévorent des punaises, choix, des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents m'ont ailé par instant. Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Presqu'île, ballottant sur les bords les querelles et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds. Et je voguais lorsqu'à travers mes liens frêles des noyés descendaient dormir à reculons. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi dont les monitors et les voiliers des anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau. Libre, fumant, monté de brumes violettes, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui courait, taché de lunules électriques, planche folle, escorté des hippocampes noirs, quand les juillets faisaient crouler à coups de trique les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs. Moi qui tremblais, sentant geindre à 50 lieues le rut des béhémots et des maelstroms épais, fileur éternel des immobilités bleues, je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, aux futures vigueurs. Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh que ma quille éclate, oh que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide, ou vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus, baigner de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons.
Gengis, je suis né à Valparaiso. Reconnaissez-vous Gengis qui enchante les mots? Assis au bord de l'eau, vous jouez à la marelle. Oéissez au amour que le ciel. Prisonnière au bord des lèvres, longtemps vous fûtes l'enfant de trop. Pataugeant dans la nacelle, vous ne fûtes qu'idéaux. Assis au bord de l'eau, vous jouez à la marelle. Oh, et hissez, oh, amour. Le vent lève la poussière sur de tristes, de bien tristes jours. Ta beauté jette du sel sur mes blessures d'amour. Assise au bord de l'eau, vous jouez à la marelle. Oui, c'est au amour que le ciel est haut.
Nous venons d'écouter le bateau Yves d'Arthur Rimbaud, suivi de la chanson Gengis de Jean-Louis Murat, à qui je voulais rendre hommage. Continuons maintenant notre voyage sous la Voie lactée sur Radio Libertaire en compagnie d'Élisée Reclus, géographe, pédagogue, grand théoricien de l'anarchie et communard. J'en profite pour signaler le festival des Reclusiennes qui se déroule chaque été à Sainte-Foy-la-Grande et dont l'émission Trou Noir du lundi 3 juillet se fait l'écho sur Radio Libertaire et sur Internet. Aussi graphomane que géographe, Élisée Reclus retrace son périple dans la mer des Antilles, puis dans le golfe du Mexique. Ce fragment d'un voyage à la Nouvelle-Orléans a été publié chez Hachette en 1860. La mer était calme et phosphorescente. À temps égaux, le navire entr'ouvrait la vague en poussant un grondement sourd comme celui d'un énorme cétacé. Les voiles enflées par la brise imprimaient au mât de suaves balancements. Tout dans la nature semblait jouir d'un mystérieux bonheur. J'étais étendu dans la chaloupe, au-dessus du gouvernail, et regardais les étoiles. Dans cette position, mon être n'existait que pour jouir. Toutes les ondulations du navire et des vagues faisaient passer un frisson d'aise à travers mon corps. Mon âme elle-même était comme supprimée. Il ne me restait plus que la faculté de savourer à large poumon l'air frais de la nuit. Balancé comme en un hamac, dans la chaloupe suspendue, tantôt élevé à 25 pieds au-dessus de l'eau, tantôt ramené jusqu'à sa surface, j'entendais tour à tour la vague frapper les bordages de la chaloupe ou disparaître sous le gouvernail du navire avec un bruit caverneux. Autour de moi, la phosphorescence des méduses jetait une pâle et tremblotante lueur et parfois la rencontre de deux ondes lumineuses faisait briller à mes yeux comme le reflet d'un éclair. Tout près, la mer semblait rouler du feu, tandis que dans le lointain, elle répandait une vague lumière bleuâtre comme celle de l'alcool enflammé. Je sentais toutes les beautés de la mer sans les voir. Mon regard restait attaché sur les étoiles, et pour cesser de les contempler, j'aurais dû me faire violence. Au milieu d'elles, les mâts inclinés et relevés tour à tour par le roulis, paraissaient décrire avec leurs pointes des cercles énormes. Trompé par cette illusion qui nous fait voir le mouvement dans les corps en repos et la fixité dans les objets immobiles, je croyais vaguement que les étoiles étaient des myriades de lucioles voltant autour des mâts et dansant au milieu de la voilure. Parfois, je voyais aussi comme une neige de lumière tourbillonnant dans l'espace et descendant en vastes spirales. J'étais ébloui de la vive splendeur qui transforme le ciel des tropiques en un ciel tout différent du nôtre. Les étoiles brillent d'un éclat au moins quadruple en apparence, et loin de paraître fixées sur une voûte solide, semblent suspendues à diverses hauteurs dans l'air bleu et noir de la nuit. La Voie lactée, si pâle dans nos régions du nord, se déroule sur la mer des tropiques comme une vaste zone transparente de nuées lumineuses, et par-delà son infini, laisse deviner d'autres infinis. Sous ce beau ciel, si profond et si pur, je me demandais comment les astronomes de l'Antiquité avaient pu inventer leurs voûtes de cristal. Tout au plus comprend-on les Scandinaves qui voyaient dans leur ciel brumeux un énorme crâne où les nuages épars représentaient les flocons de la cervelle divine. Peu à peu, mes yeux se fermèrent et je tombai doucement dans un sommeil aussi agréable que la veille. En rêve, je voyais encore les étoiles me scintiller du haut du ciel des promesses mystérieuses quand je fus réveillé en sursaut par une voix partie du gaillard d'avant. Une grande masse noire se dressait devant nous, à 2000 vers le nord-ouest. C'était l'île de Montserrat. À travers le bleu profond de l'air, où flottaient ça et là, comme des particules vaguement lumineuses, on distinguait parfaitement au-dessus de l'horizon les profils aigus des deux montagnes jumelles. C'était la première fois que je voyais une terre américaine, et cependant, je ne regrettais pas qu'il fût nuit. Ce pays de mon imagination ne m'apparaissait pas tout d'un coup dévoilé par la chaleur brutale du soleil, mais il se laissait deviner à la lueur des étoiles et m'offrait un cadre où je pouvais donner une vie à mes rêves. Dans cette masse noire, je me figurais contempler toutes les splendeurs tropicales, les forêts impénétrables et pullulantes de vie, les gorges profondes ruisselantes des cascades, les maisons blanches brillant à travers l'immense feuillage des manguiers et des champs de canne ou de plantains inclinés sous la brise. Pendant que je croyais entrevoir toutes ces magnificences, le navire avançait rapidement. Et bientôt, Montserrat ne fut plus à l'horizon qu'un nuage flottant et indécis. Je me laissais de nouveau tomber au fond de la chaloupe et rêvais de promenades sous les bosquets d'orangers. Ma promenade dura longtemps, car je dormais encore après le lever du soleil. Un violent jet d'eau me réveilla tout à coup. Les matelots faisaient la toilette matinale du navire. Et sans me voir, avaient dirigé leurs tuyaux de pompe justement sur moi. Vêtu légèrement comme je l'étais, je ne fus pas trop alarmée de cette douche improvisée qui s'abattait sur ma tête, et je me laissais bravement baigner comme un triton. C'était le fragment d'un voyage à la Nouvelle-Orléans écrit par Élisée Reclus, et je préfère me trouver en mer avec le triton d'Élisée Reclus qui doit nager paisiblement avec les sirènes plutôt qu'avec le triton de Frontex. Voilà, on a traversé ensemble cette première heure de la nuit, et je remercie Iris qui a permis à notre vaisseau de prendre le large sous la Voie lactée. Pour se quitter, on se laisse porter par un poème suivi de la musique du film Dune de David Lynch, composé par Brian Eno. Bonne nuit à toi, bonne nuit à vous, sur Radio Libertaire. L'éternité. Arthur Rimbaud. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Âme sentinelle, murmurons l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu. Des humains suffrages, des communs élans, là tu te dégages et voles selon. Puisque de vous seul, braise de satin, le devoir s'exhale sans qu'on dise enfin. Là, pas d'espérance, nulle orietture, science avec patience, le supplice est sûr. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil.